pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
C'est un peu comme la suite du film de Françoise Davis, Comme des lions, qui raconte 2 ans de lutte des salariés de PSA Aulnay contre la fermeture de leur usine, qui employait plus de 3000 personnes, dont près de 400 intérimaires. C'est ce qui se passe après une des grèves les plus longues du groupe, où pendant 2 ans, quelques centaines d'ouvriers ont tenu bon, obtenu plusieurs millions et refusé de se laisser abattre sans rien dire. En 3 ans, ce sont en tout 17 000 emplois qui ont été supprimés dans ce groupe automobile, ce qui n'a pas empêché PSA d'annoncer en février des profits exceptionnels pour l'année 2015, 3,8 milliards d'euros de free cash flow. Au même moment, la direction annonçait vouloir supprimer encore plusieurs centaines d'emplois à l'usine de Poissy, où nous sommes donc aujourd'hui. L'usine PSA de Poissy, dans les Yvelines, emploie encore 5000 salariés, dont environ 3000 ouvriers. 3 modèles de voitures sortent de ces chaînes, la Citroën C3, la Citroën DS3, la Citroën DS3 Cabrio, ainsi qu'une partie de la Peugeot 508. Au total, 1940 voitures exactement sortent chaque jour des chaînes de montage de l'usine PSA de Poissy. Elle se trouve au bord de la Seine, elle s'étend sur près de 152 hectares, dont 580 000 mètres carrés d'ateliers. Certains bâtiments en briques, vous l'entendrez aujourd'hui, qui abritent des chaînes de montage, datent de la fin des années 30. Il y a peu de temps, un pacte de compétitivité a été signé avec les salariés qui leur demandait une grande souplesse sur les horaires, une flexibilité accrue sur les temps de travail, comprenant désormais des jours chômés ou pas en fonction des besoins, et d'autres spécifications qui préfiguraient très étonnamment quelques-unes des mesures prévues par la loi El Khomri, dite loi travail. Les salariés ont accepté de signer en échange de promesses d'embauche qui ne se sont pas encore concrétisées, tandis que la souplesse et la flexibilité, elles, ne se sont pas faites attendre. Aujourd'hui donc, dans les pieds sur terre, quelques histoires autour des horaires de travail chez Peugeot à Poissy, racontées par des ouvriers jusqu'à 14h. Vous écoutez France Culture et c'est un reportage de Martine Abbat.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Patrice Zane, je suis ouvrier à l'usine de Peugeot Poissy depuis 3 ans et j'étais auparavant ouvrier à l'usine Citroën Aulnay jusqu'à sa fermeture. Je travaille au contrôle qualité. Un des faits qui m'a marqué, que j'ai beaucoup apprécié cette année, c'était au mois de juillet, c'était la fin du Ramadan. Des camarades avaient décidé de faire un repas et d'inviter non seulement tous les collègues de leur ligne de travail, mais aussi tous ceux alentours qu'ils connaissaient. Donc ils ont fait un buffet où il y a eu à peu près, à mon avis, une bonne quarantaine de personnes qui sont passées. Pendant les 13 minutes de la pause la plus longue qu'on a dans la journée, il y avait ceux qui s'occupaient du café, qui en avaient fait suffisamment, qui en refaisaient, qui faisaient le tour des camarades pour proposer. Mais c'est très rapide puisque c'est 13 minutes, donc ça demande quand même beaucoup d'organisation. C'est obligé qu'il y ait un petit peu de souplesse de la part de la hiérarchie pour pouvoir un peu préparer et installer, parce que sinon c'est quand même difficile juste en 13 minutes pile de venir, de tout installer, de faire venir tout le monde, manger, de repartir, c'est pas possible quoi. Le chef là, pour le coup, avait aidé à ce que ça se passe correctement, ce qui a permis effectivement d'avoir vraiment le temps complet de la pause, à l'heure pile à la fin du travail, pouvoir venir et avoir suffisamment de temps pour partager ce moment. Et puis dès que ça a sonné, et ben, on a vu tout le monde repartir très vite. Et là, la salle s'est vidée en quelques secondes, quoi. Puisque les horaires de travail, c'est très précis dans une usine, tout est compté à la minute. On commence à 5h30 le matin. On finit à 12h51, on a 2 pauses uniquement, une pause de 13 minutes, précisément à 7h58 jusqu'à 8h11, puis une pause de 8 minutes à 10h55 jusqu'à 11h03. On n'a pas de temps de repas. Le temps de repas est décalé en fin de poste. On mange soit avant, soit après. On peut manger pendant les 13 minutes, mais il faut effectivement, en 13 minutes, il faut tout faire. Donc, faut quand même faire le choix entre manger, fumer sa cigarette, pour ceux qui fument, si on veut aller aux toilettes. Et il y a beaucoup de collègues, en fait, qui ne mangent pas. On finit à 12h51. L'équipe d'après-midi commence à 12h51, donc dans la foulée, finit à 20h12. Et les chaînes s'arrêtent à 12, elles ne s'arrêtent pas à 10, elles ne s'arrêtent pas à 11, elles s'arrêtent à 12. Ce qui est très impressionnant dans une usine comme une usine automobile, c'est le calcul du temps de travail, pas seulement sur la journée, mais le temps pour faire les opérations. L'ouvrier qui travaille, il n'a pas une seconde pour lui, pour souffler, il n'arrête pas. Toutes les opérations qu'il fait, elles sont comptées au centième de seconde. Le temps qu'il faut pour prendre, par exemple, une visseuse électrique, le temps qu'il faut pour la ramener, pour mettre l'écrou sur la visseuse, pour serrer l'écrou, le temps de vissage, pour reposer la visseuse, pour se déplacer, aller chercher une pièce, pour la ramener. Le nombre de pas est calculé. Et c'est au point que, par exemple, sur une des chaînes là, récentes au montage, on appelle ça l'habillage moteur, c'est-à-dire que là, les moteurs arrivent, ils sont suspendus. C'est des moteurs, on va dire, pas équipés, et qu'il faut ensuite équiper de toutes les durites, les faisceaux, etc. Les visseuses ont été changées. Et maintenant, il y a des visseuses électriques qui sont très rapides, qui sont d'ailleurs plus agréables pour le vissage, puisqu'il y a moins d'à-coups et de contre-coups à la fin du vissage,
sur et donc
sur le poignet. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que c'est très bien, puisque c'est plus rapide, c'est plus fiable, et puis ça fait quand même beaucoup moins mal à la main, ça fait moins d'efforts. Sauf que le temps de vissage a été compté par rapport aux visseuses précédentes. Et donc le temps de vissage faisait gagner quelques microsecondes, je ne sais pas combien exactement, par visseuse. Et donc au total, sur cette ligne où l'ensemble des visseuses avaient été changées, il y avait, au final, à peu près une minute de temps de gagner. Ce qui fait qu'une minute, ça correspond à un poste. Et donc il supprime un poste en répartissant les opérations de ce poste-là sur les autres postes. Ce qui fait que celui qui avait gagné un petit peu de temps avec un vissage un peu plus facile, etc., en fait, il n'a pas gagné de temps puisqu'il va se retrouver avec quelque chose de plus à faire. Mais ça a impacté particulièrement certains postes qui sont devenus, du coup, très difficiles à tenir. En général, la direction compte là-dessus. Sait très bien qu'au départ, c'est difficile. Parfois, ça passe pas. Parfois, ça donne lieu à des débrayages. Ça peut. Mais parfois, simplement à des discussions, des résistances, on va dire. Mais ils savent qu'au bout d'un moment, bon, on peut s'habituer un petit peu. Sauf qu'on s'habitue à travailler comme un dingue, quoi, de plus en plus, et sans souffler, quoi, sans souffler. Et des fois, il suffit de pas grand-chose pour faire couler, pour qu'un ouvrier coule, parce que il était déjà au maximum. Et là, un petit truc en plus, ça pourrait paraître rien, hein, une vis ou rajouter quelque chose, une durite, un petit quelque chose, bah c'est la goutte qui fait déborder le vase, quoi. Là, l'ouvrier va couler. Il va pas y arriver, il va couler. Couler, ça veut dire qu'on a dépassé sa limite dans l'espace dans lequel il fallait faire les opérations, puisque la chaîne, elle avance, il faut suivre la voiture, on n'a pas le temps. Et du coup, on empiète sur le poste suivant. Voilà, on appelle ça couler. Mais ça veut dire quelque chose quand même, couler, quoi. Ça veut dire on se noie, quoi, on se noie. Mais ce qui crée de la valeur, c'est ça, comme c'est le travail humain qui crée de la valeur. Bah, faut l'optimiser au maximum. Et puis, pour le même salaire, bah, faut essayer de faire travailler plus. Donc, on fait travailler moins de monde, avec plus de travail. C'est très concret dans une usine automobile, puisque c'est calculé au centième, tout est calculé en détail. Mais ça existe aussi dans tout un tas d'autres, bien sûr, tous les autres métiers d'ailleurs aujourd'hui. Mais ça ne se voit pas de la même manière. Et ça, c'est un objectif qu'ils ont permanent, de gain de productivité permanente.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Gisèle Tormeau, je suis monitrice sur chaîne à Poissy et je suis arrivée à Poissy il y a 3 ans. Le premier souvenir que j'ai eu et qui m'a choquée, c'est l'usine. L'usine, la vétusté de l'usine et la vieillerie de l'usine. J'ai trouvé une usine sale, très sale, avec des immondices un peu partout. Et après, quand je suis rentrée dans l'atelier, alors là, ça a été vraiment le choc de ma vie. C'est, je me suis demandé si j'étais pas à l'époque de Germinal, quoi. C'est une usine sale, vieille, des moyens obsolètes. Et aussi un système de management assez arriéré aussi, à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il y a le chef et il y a l'ouvrier. Le chef, c'est pas quelqu'un de compatissant. Il est là pour vous faire travailler et il vous le fait remarquer, quoi. C'est même oppressant. Et c'est toujours aussi très... infantilisant. Et le ton aussi de parler aux gens, très très dur. Il n'y a pas de respect de l'individu. Et ça, c'est vraiment, ça a été vraiment marquant pour moi, dès le départ. Et cette usine, en plus, c'est une de, je crois que j'ai entendu, c'était une des dernières usines à étage. Donc en fait, moi je suis dans une partie du bâtiment qui date de 1938, qui n'a pas du tout changé depuis 1938, ça je peux le garantir. Et au-dessus de l'atelier où je travaille, il y a la cantine, après il y a des bureaux. Et donc on est vraiment en bas, on n'a pas de lumière, on n'a pas de fenêtre. Il fait chaud, l'hiver il fait froid. Et en plus, ce qui m'a marqué aussi, c'est que les gens ne mangent pas à Poissy, les ouvriers ne mangent pas. Ils mangent soit avant le travail, soit après le travail. Donc c'est dire aussi qu'au niveau hygiène de vie, c'est assez lamentable des horaires comme ça. On mange mal, c'est des canettes de coca à n'en plus finir pour tenir le coup, c'est du grignotage. Et on voit bien le côté fatigué des gens. Il y a une fatigue. C'est pareil, et c'est aussi ce qui m'a beaucoup choqué aussi, c'est une usine où on n'a pas d'endroit pour s'asseoir. Et la première chose que m'a dit mon chef, parce que moi ça m'a marqué, j'ai dit mais comment ça se fait que les gens n'ont pas de banc alors qu'ils sont debout 7 heures par jour? Parce que d'où je venais, on avait des bancs. Il m'a dit, ici, on n'a pas le droit de s'asseoir. Voilà, c'est ça, là, c'est la maîtrise de Poissy. C'est les premiers discours que j'ai entendus de ma maîtrise. Moi, je venais d'Aulnay. Donc, à la fermeture, beaucoup de gens d'Aulnay se sont rabattus sur Poissy. Il y a plus de 650 personnes qui sont venues à Poissy. Et on a tous eu le même choc, en fait. C'est de dire, mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'on ferme cette usine pour venir nous faire travailler là-dedans, quoi. On travaille pas en qualité. La production, c'est panne sur panne. Rien ne fonctionne. J'ai jamais vu une usine avec autant de pannes. L'usine d'Aulnay, c'était une usine, déjà, qui était vachement plus récente. Elle était de 73, donc de 38 à 73, il y avait quand même un petit peu d'évolution. Et c'est une usine qui a très vite évolué, Aulnay. Déjà, il y a eu des grèves aussi. Il y a eu des grandes grèves en 82 qui ont fait que les gens ont fait des grèves pour leur respect, pour leur dignité. Donc, on a amené cette usine à être beaucoup plus humaine.
Ils demandaient quoi exactement ?
Le respect de l'être humain, tout bêtement, parce que justement, il y avait ce système de management qu'on a encore à Poissy. Et de là, ça a amené un gros changement quand même dans l'usine. Et puis, il y a eu une ouverture d'esprit. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience à ce moment-là, de dire, on a des ouvriers qui sont compétents, qui ont un savoir-faire. Et c'est vrai qu'on avait cette possibilité, dès qu'on avait une idée, quoi, en fait, de la mettre à exécution. Donc, quand on leur exposait notre problème ou notre idée, c'était très vite mis en place. Parce que, tiens, tu peux venir, est-ce que tu peux, regarde, ah oui, tiens, je vais chercher tel outil, on va le faire. Et ça se faisait pratiquement dans l'immédiat. Il y avait des tolérances, il y avait de la tolérance. Par contre, le travail était bien fait. Que Poissy, moi, ça fait 3 ans que j'attends des fois la mise en place de quelque chose qui ne viendra pas. Et d'ailleurs, le mot d'ordre de Poissy par rapport aux gens d'Aulnay, parce qu'ils savent très bien qu'on a beaucoup d'avance sur eux, et c'est de dire, ici, tu es à Poissy, t'es pas à Aulnay. À titre d'exemple, Aulnay, on faisait la C3 qu'on fait toujours à Poissy. Donc Aulnay avait quand même pratiquement trois bonnes années d'avance sur Poissy. Donc sur tout ce qui était petits détails à régler, etc., on avait déjà réglé les problèmes. Donc des gens comme moi qui arrivent d'Aulnay et qui travaillent encore sur la C3 et qui voient des problèmes, les problèmes qu'on a eus, nous, à Aulnay, 3 ou 4 années auparavant, qu'on a résolus, on leur amène la solution sur un plateau, ils n'en veulent pas. Donc on sent que bon, il n'y a pas la volonté de vouloir faire évoluer les choses. Et ça, c'est frustrant, et puis bon, ben, c'est, au final, ben, on baisse les bras, quoi. Là, on est dans un processus où on sent qu'il n'y a pas la volonté d'améliorer l'usine, d'aller plus loin, quoi, en fait. Et là, on s'aperçoit qu'on va droit dans le mur en qualité, en production, et que rien n'est fait, alors qu'il y aurait des possibilités de faire quelque chose.
Donc il n'y a pas de volonté d'améliorer l'outil.
Non, du tout, du tout. Je vous dis, c'est une usine qui est vétuste, les moyens sont vétustes, donc quand ça pète, ça pète. Malheureusement, c'est des machines qui sont vieilles, donc ça, bah, tout ça, ces retards-là, on les impute en fait à la production, et qui dit production, sur les ouvriers. Donc systématiquement, bah, vous allez avoir des heures supplémentaires bah, la semaine d'après. Donc ça, en général, ils nous le font quand on est en semaine du soir. Là, dernièrement, bah, on rentre de vacances, on nous fait chômer.
Et ça veut dire quoi, vous faire chômer ?
Bah, c'est-à-dire qu'on est payé 70% et puis voilà. On vous dit, vous restez à la maison, c'est chômage. On n'a que 70% de notre salaire sur cette journée-là. Donc c'est ça qui est étonnant, c'est qu'ils arrivent à justifier du chômage technique sans nous expliquer exactement le pourquoi. Là, ça a été, soi-disant, par rapport au Brexit. Voilà, le Brexit qu'il y a eu, ça, avec l'Angleterre, ça a impacté notre usine. Alors ça, c'est magique. Et on nous fait chômer donc le 17, et par contre, on nous a fait travailler obligatoire le samedi suivant. Donc quand vous travaillez du matin, du lundi au samedi, vous vous dites, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Après, on va chômer une semaine en octobre. Ça, on sait très bien que c'est parce qu'ils ont des problèmes avec les impôts, des taxes. En fait, ils payent des taxes quand il y a du stock. Donc, ils vident le stock. Donc, c'est sur nous qu'on ponctionne encore, quoi, en fait. Donc là, on est un peu sur le qui-vive, quoi. Tout le monde attend. C'est pour ça que les gens ne bougent pas non plus, hein. Parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi. Ils ont peur d'être sur le carreau. En plus, c'est des gens qui habitent loin, qui sont dans des régions où il n'y a pas de travail. Donc là, l'usine de Poissy, bon, bah, on se tait, on courbe les chines parce qu'il faut pas qu'on perde notre travail. Quoi.
Ils habitent où, les gens ?
Dreux, Évreux, beaucoup.
Donc la Normandie ?
La Normandie. Ils viennent depuis la Normandie tous les jours. Ouais.
Vous gagnez combien ?
Là, actuellement, je suis à 1680 euros net par mois.
Net.
Quand j'ai pas de chômage. Voilà, parce que quand il y a du chômage, en fait, depuis que je suis à Poissy, je perds de l'argent, quoi, par rapport à Aulnay. Donc là, oui, là, ça, c'est le pôle tertiaire. Donc c'est tout ce qui est bureau. Peugeot Citroën, voilà. Des deux côtés, d'ailleurs. Des deux côtés du rond-point. Donc là, voilà. Là, ici, on est dans l'usine. Moi, je suis dans ce bâtiment-là.
Énorme, hein.
C'est très mal. C'est une usine qui est dispatchée en fait sur, je crois que c'est 117 hectares. Je crois. En fait, le grand tunnel que vous voyez là,
oui.
Lui, il va, les voitures passent à l'intérieur et amènent les voitures.
C'est un tunnel aérien fermé.
Oui, oui, oui.
Comme un gros tuyau.
Oui, et qui fait un va-et-vient en fait parce que elle est tellement mal foutue cette usine qu'en fait normalement on fait le ferrage, le montage. Et la peinture, le montage, c'est tout ce qui est habillage de la caisse à l'intérieur, etc. Et après, ça va directement en peinture. Que là, c'est l'inverse. Là, on fait tout le ferrage, ça passe au montage, ça repart en peinture, ça revient au montage. En fait, il y a un va-et-vient dans le tunnel.
C'est comme un tapis roulant ?
Comme un... Oui, ça ressemble un peu à ça. Mais... Alors voilà, là, c'est le...
Et là-bas, il y a le lion Peugeot.
Oui.
Alors vous êtes donc moniteur de ligne.
Oui. Ah, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose. En fait, moi j'ai 6 personnes à gérer. Donc ça va être les remplacements, justement, bah, les fameux pipis, cigarettes, t'as envie de téléphoner à ta femme.
C'est-à-dire que lorsqu'ils s'absentent, vous les remplacez pour que la ligne ne s'arrête pas.
Ne s'arrête pas, oui, oui. Donc il y a ça, et puis après il y a tout ce qui est les contrôles, tout ce qui est contrôle du matériel, bah, ça c'est tous les matins, on contrôle, on note si c'est bien aux normes, etc.
Et vos gars, vous pouvez les remplacer Quand vous voulez, quand ils veulent.
C'est moi qui décide, ouais. Déjà, toutes les heures, je les remplace.
Chacun.
Moi, le gars lève la main, il me dit, Gigi, tu peux me remplacer, il n'y a pas de souci, je remplace. Mais j'ai été rappelée à l'ordre pour ça. Bon, le responsable de groupe et mon RU, mon responsable d'unité, ça a été très officiel en me disant, tu sais, c'est pas normal. Ici, on ne remplace pas les gars comme ça. Tu dois les remplacer que 2 fois 5 minutes et c'est tout, dans la journée. Et moi, je leur ai dit, c'est moi le moniteur ou c'est vous? Est-ce que mon module ne tourne pas? Ils m'ont dit si. J'ai dit, est-ce que la production n'est pas faite? Ils m'ont dit si. J'ai dit, alors moi, je fonctionne comme ça. Maintenant, ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, tant pis, ce sera comme ça. Quand vous avez un moniteur qui va vous dire, mais non, mais je suis pas là pour te remplacer, alors que vous avez envie de faire pipi, et vous faites quoi?
Ils font quoi, alors, quand ils
ont... Ben, ils attendent. C'est pour ça que c'est une usine où les gens ont beaucoup de mérite à venir travailler dans cette usine. Ou alors, faut vraiment, vraiment... n'avoir rien d'autre, quoi. Pour se dire, je continue, j'accepte tout.
C'est votre cas? Vous acceptez tout?
Non. non.
Qu'est-ce que vous autorisez à refuser?
Tout. Puis, j'ouvre ma bouche aussi. Ça, c'est une chose aussi que Poissy... On cite toujours Aulnay. C'est vrai que ceux qui me connaissent et qui vont entendre, ils vont dire, mais elle nous embête avec Aulnay, mais on pouvait parler, on pouvait dialoguer, poser des questions. Des fois même ça chauffait un peu, mais ça permettait aussi d'expulser pas mal de choses, d'évacuer. Là, la première fois où j'ai été dans ce fameux briefing, personne ne parle. Donc je me rappelle, moi déjà au démarrage, j'ai posé ma première question, et là j'ai mon chef qui m'a dit, ici on parle pas. J'ai dit, je suis désolée, mais moi je parle. Donc on a commencé notre histoire d'amour un peu chaud quand même, et ça a donné un peu confiance au gars. De voir, en plus, je suis la seule femme. Donc de voir, en plus, une femme qui vient d'une autre usine, qui a fait la grève, qui est là et qui parle. Ils m'ont dit, Gigi, c'est super, parce qu'avec toi, on rigole, quoi. Le matin, c'est... comme je dis, mon chef, c'est mon chef, mais j'aime bien lui mettre une cartouche tous les matins, quoi. Voilà. Là, notamment, quand vous avez une ligne, on vous dit... pareil, on a une vitesse qui doit être constante et on a une production fixe à faire. Notamment en ce moment, c'est 384 voitures par équipe. Des journées comme aujourd'hui où on en fait 384 plus 17 bagnoles, ça veut dire que la vitesse de ligne, elle n'était pas réglo. Donc je sais que demain, au briefing, il va falloir que je l'aligne en lui disant, tu recommences pas. Mais c'est beaucoup plus détendu depuis que je suis arrivée. Il y a beaucoup plus de dialogue. Et j'ai un chef aussi qui s'est beaucoup radouci au niveau du ton de sa voix. Mais vis-à-vis des gars, 2-3 fois, moi, je l'ai entendu mal parler. 2-3 fois, je suis intervenu en disant, faut pas parler comme ça aux gens, c'est pas des chiens.
Par exemple, il dit quoi?
Quand un chef va vous dire, ah tiens, mon petit hindou, hein, c'est mon petit hindou à moi, ça. Je suis désolé, c'est un père de famille, le gars, on parle pas comme ça aux gens. C'est pas ton chien, c'est pas ton boy. Mais là, pour donner un exemple, ce matin... À la fin de l'équipe, quand il est midi et demi et vous avez déjà fait votre prod, vous l'avez dépassé, et qu'on vous fait attendre jusqu'à 45 pour quitter la ligne comme des enfants, en fait, alors qu'on sait très bien qu'on ne peut pas sortir avant l'heure, parce que il y a des problèmes d'assurance, il y a des problèmes... Mais que les gens soient un peu de liberté, prennent le temps pour se changer, se laver. Non, vous êtes assis sur votre ligne et vous attendez le regard du chef. Voilà. Et moi, ça m'a énervé, c'est-à-dire qu'à 40, j'ai dit au gars, mais partez. Et ils se regardent les uns les autres, ils se cherchent du regard, et en se disant, tiens, si lui s'en va, moi, oui, je vais aussi m'en aller. Et de leur dire, mais partez tous ensemble. Si vous partez tous ensemble, on peut rien vous faire. Je leur dis, mais qu'est-ce que vous êtes des hommes, en fait. C'est ça, de leur dire, partez. Vous êtes libres, c'est pas marqué prison de Poissy au-dessus. Ils ont encore cette peur.
Et alors ?
Alors, ils sont partis quand même. On a du mal à leur faire dire non. Voilà, tout bêtement, non. Je suis pas... Quand on leur dit, mais tu es un père de famille, tu as des enfants, tu as une autorité chez toi, mais il faut que tu l'aies aussi ici, cette autorité. Il faut que tu la fasses respecter aussi. On a l'impression que c'est plus les mêmes hommes. Des fois, je me suis souvent posé les questions... Comment ils sont chez eux? Est-ce qu'ils ont cette même gentillesse? Est-ce qu'ils ont cette même docilité? Ou alors est-ce que c'est l'inverse ? Parce que ben justement, il y a toute cette journée de frustration, comment ils rentrent chez eux ? J'aimerais bien savoir. J'aimerais bien voir un peu. Moi, je modernise mon entreprise. Ils m'ont dit qu'il fallait que ce soit l'entreprise d'excellence. Donc, je la modernise. On a mis de l'argent en commun. On a été acheter une cafetière. Ça ne sait où. Voilà. Mais on avait un endroit pourri pour poser cette cafetière. Donc, j'ai un ami à la maintenance qui m'a dit, tu sais, il y a d'immenses bennes au fin fond de l'usine. Bah, oui, il y a tout un tas de matériel. Ils foutent tout en l'air, mais c'est neuf. Il me dit, si tu veux, il y a des grands placards. Il y a un peu de tout. Si tu veux, je te les ramène. J'ai dit, bah, écoute, vas-y, ramène. Donc, c'est au bout de ma ligne. Donc, j'ai réinstallé tous les casiers des gars, parce qu'on a des petits casiers personnels pour la journée pour poser nos sacs. Donc, on a fait un joli petit appartement. Et moi, j'ai marqué Café Le Goulag. C'est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et on s'est dit, bon, ils vont tout nous enlever. Ils vont pas tolérer. Bah, ça fait 3 ans que tout le monde va au Goulag, en fait, maintenant, pour boire le café.
Red stain on the concrete, disdain for the bare feet. Work, work, my katongo, no perk for the bongo. Prez is chatty, fresh from disparity. Arms wide open, strange fruit smoking. Paint on a canvas, carved from a pancreas. Blue for the water, red for the daughter.
Money, money, money.
Money green where the land was. First hand, second hand laws. Horn of the clock bike, thorn of the crown spike. Smile of the victor, child of the prisoner.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre à Poissy, avec des histoires d'horaires racontées par des ouvriers de Peugeot. Un reportage de Martine Abbat, réalisé par Marie Placet. Merci à Ghislaine Tormos, à Patrick Zahn, à Philippe Julien et à Mohamed Boisani. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Commentaires, partage. C'est sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. N'hésitez pas à poster, commenter, liker, faire tout ce que vous voulez avec nos émissions. Elles sont pour vous. Vous pouvez également vous abonner à notre podcast, 2-3 clics, et vous pourrez ainsi nous écouter où vous voulez, quand vous voulez, sur votre smartphone ou votre tablette, comme on dit.